Le pêcheur et le pardon, psaume 51. Steve Williams. Le psaume 51 raconte l'histoire d'un pêcheur qui se repent et trouve le pardon auprès de Dieu. Martin Luther proclamait, « Il n'y a pas d'autre psaume qui soit plus souvent chanté ou prié dans l'Église. » Dans son œuvre monumentale en 7 volumes sur le livre des psaumes, Charles H. Spurgeon a exprimé sa profonde admiration à l'approche du psaume 51. Il l'a comparé à la terre sainte où Moïse se tenait près du buisson ardent. Il l'a également comparé au lieu sacré de Bethel où Jacob eut la vision des anges montant et descendant une échelle vers le ciel. Il a conclu, « Un tel psaume peut être pleuré, absorbé par l'âme, puis récité avec dévotion, mais commenté, ah ! Où est celui qui, après avoir tenté cela, peut faire autre chose que rougir de sa défaite ?» Le psaume 51 est universellement reconnu comme le plus éloquent des psaumes de pénitence. Il est l'évangile en résumé. Au XVIe siècle, un auteur le qualifiait de joyau le plus brillant de tout le livre, il « contient un enseignement si vaste et une doctrine si précieuse que la langue des anges ne saurait en rendre pleinement justice le développement exposant de nous devrions le lire et l'étudier avec respect, avec un esprit ouvert et avec un cœur brisé et contrit, V17. » Le psaume 51 a été écrit par David suite à son repentir pour son péché avec Bethsabée, après avoir été confronté par le prophète Nathan. À sa lecture, de nombreux parallèles avec le cheminement spirituel de David apparaissent clairement. Il convoitait un C. H. Spurgeon, Le Trésor de David, Londres, Marshall, Morgan et Scott, SD, Réimpression, Grand Rapids, Michigan, Back et Book House, 1978, Vol 2, V. Victorinus Trigelieu, 1524, 1569, cité dans Spurgeon, Trésor, Vol 2, page 457. David, ayant eu des relations sexuelles avec Bethsabée, fit assassiner son mari pour dissimuler son péché et prendre Bethsabée pour épouse. Nathan confronta David à son péché quelques mois plus tard. Il confessa sa culpabilité, se repentit et fut pardonné par Dieu. Les étapes du cheminement de David du péché au salut sont communes à tout cheminement spirituel. Ce sont 1. Le poids et la conviction du péché, V3. 2. La pénitence et le repentir, VV16, 17. 3. La confession du péché, VV 4, 5, 4. Un appel à la miséricorde et au pardon, VV 1, 2, 7 à 12, 14 à 5. La joie du salut et du pardon, VV 8 à 13, 14 b, 15. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi, V 3. David avait vécu avec son péché pendant près d'un an. Il pensait que personne n'était au courant. Mais lorsque le prophète Nathan le confronta à son péché, David prit conscience de la laideur, de la détestabilité et de la répugnance de ses actes. Peut-être la conscience de David le tourmentait-elle plus qu'on ne le croit. Le souvenir des méfaits passés peut hanter une personne et lui rendre la vie misérable. Comme David l'écrivait lui-même, « Tant que je gardais le silence sur mon péché, mon corps dépérissait, je gémissais sans cesse. Car jour et nuit ta main pesait sur moi, ma vitalité s'épuisait comme sous la chaleur brûlante de l'été. » 32, 3, 4. La culpabilité et le fardeau du péché étaient si insupportables pour David qu'il comparait cette sensation à celle de ses os brisés, V8. La culpabilité peut blesser et être aussi douloureuse que de véritables blessures physiques. La plupart des prédicateurs et des conseillers ont parlé avec des personnes qui pleurent sur leurs erreurs tragiques. Elles aspirent à être soulagées. Le péché fait mal. Le docteur Francis Brasland, ancien président de l'Association américaine de psychiatrie et rédacteur en chef de l'American Journal of Psychiatry, s'exprimait lors du Congrès national méthodiste sur la médecine et la théologie. Il a déclaré que le nombre de jeunes dans les hôpitaux psychiatriques est en augmentation. L'une des raisons est le relâchement des normes morales en matière de sexualité dans notre société. Il a ajouté, une attitude plus laxiste sur les campus universitaires concernant les relations sexuelles avant le mariage a engendré des tensions. Chez certaines étudiantes suffisamment graves pour provoquer une dépression nerveuse, 3. Le processus de guérison du salut commence par le fardeau du péché. Pénitence pour le péché car tu n'aimes pas le sacrifice, sinon je le donnerai, tu n'es pas content de l'holocauste. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô accent circonflexe Dieu. Tu ne le mépriseras pas, V16, 17. La seule façon appropriée de gérer la culpabilité du péché est de nous humilier et de devenir véritablement repentants. Si nous voulons nous approcher de Dieu et trouver le pardon, nous devons le faire avec un cœur contrit. Une obéissance rituelle ne traitera pas correctement la culpabilité du péché. David savait que les sacrifices et les holocaustes n'expiraient pas ses péchés de meurtre et d'adultère. Il avait besoin de se repentir. Il devait offrir à Dieu le sacrifice d'un esprit brisé. En revanche, à Chicago, un voyou a assassiné un policier. Il a été appréhendé et mis en prison. Le vendredi suivant, on lui servit de la viande pour son repas. Il a dit avec indignation aux gardes, « Enlevez ça. Pensez-vous que je mangerai de la viande vendredi ?» 3 Paul Litton, Encyclopédia of 7,700 illustrations, Rockville, MD, Assurance Publishée, 1979, 793. Voir également le chapitre sur Premarital Sex dans Steve Williams, Study in Christian Ethics, Abilene, Quality Publication, 1990. 4 Walter B. Knicht, Knicht's Illustration for Today, Chicago, Moody Press, 1970, page 65. Confession du péché contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu es justifié quand tu parles, et irréprochable quand tu juges. Voici, je suis né dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu, V4, 5. David ne trouve aucune excuse pour ses péchés. Il les avoue. Il ne fait pas de vagues aveux en disant, si j'ai fait quelque chose de mal. Point. Il ne considère pas son péché comme une erreur de jugement ou une action douteuse. Sa déclaration n'est pas une plainte à moitié excusante venant d'un cœur de pierre. David assume l'entière responsabilité de ce qu'il a fait. Parce que sa confession est si franche, elle plaisait à Dieu. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Il avait péché contre Uri le Hittite, contre Bethsabée et contre la société. Dire qu'il avait péché contre Dieu et Dieu seul était une exagération qui touche au cœur du problème. David disait qu'il avait offensé la volonté de Dieu. Il n'avait pas seulement offensé les subtilités culturelles de la société. Il avait enfreint la loi de Dieu et péché contre Dieu lui-même. David a également écrit « C'est dans le péché que ma mère m'a conçu », V5. De nombreuses explications ont été données sur ce verset, notamment la doctrine du péché originel. Sachez qu'il n'y a pas de théorie systématique du péché originel dans l'Ancien Testament. Seuls quelques versets, principalement de la poésie, font même allusion à quelque chose qui s'y rapporte de loin, et il existe une explication alternative pour chacun d'eux, 58.2.3, Job 14.2.4, 15.2.14. Alors, comment expliquer le verset 5 ? Il est peu probable que David insinue quelque chose de mal concernant sa mère ou son père, 86, 16. Sa déclaration pourrait être une exagération audacieuse et poétique. Très probablement, David dit qu'il a été introduit dans un monde pécheur, un environnement de péché universel, dans une race de gens qui pêchent tout, et qu'il a rapidement commencé à pratiquer cette pratique. David fait une déclaration émouvante sur la façon dont il a commis un péché. Il est inadmissible de fonder une quelconque doctrine sur la nature de l'homme sur ce morceau de poésie touchant. 5. Si le verset 5 enseigne le péché originel ou la dépravation totale héréditaire, alors il ne correspond pas au contexte de l'ensemble du passage. Dans le psaume 51, David confesse sa culpabilité. Il est en faute. Son péché n'était pas un événement anormal. Son erreur n'était pas seulement un moment de faiblesse. 5. Anthony L.H. Eclid Monsieur Millet, Psalm, Austin, Texas, Sweet Publishing Company, 1980, page 181. Naisse ou un glissement. Il n'y avait aucune circonstance atténuante à laquelle il pouvait faire appel. C'était prémédité et souhaité par lui. Il n'a pas simplement commis une erreur. Son être tout entier était impliqué dans la convoitise et le meurtre, et tout son être avait besoin d'être purifié. Insérer ici la doctrine du péché originel rendrait David coupable d'esquivement de ses responsabilités. S'il avait été totalement dépravé dès sa naissance et s'il avait été prédestiné au péché, une partie du blâme serait retirée à David. Mais David utilise « je, moi et mon » 35 fois dans le psaume 51, NASB, RSV. Sa confession est personnelle et précise. Son péché était sa propre faute et non une tendance héritée au mal, si c'est un appel au pardon du péché et pitié de moi, ô accent circonflexe Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de ta compassion, efface mes transgressions. Lavez-moi complètement de mon iniquité et purifiez-moi de mon péché. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les os que tu as brisés se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô accent circonflexe Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta présence et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Redonne-moi la joie de ton salut et soutiens-moi d'un esprit bien disposé. Délivre-moi du sang versé, ô accent circonflexe Dieu, Dieu de mon salut, VV1, 2, 7 à 12, 14a. Après avoir confessé son péché, David fait appel à Dieu pour qu'il ait pitié de lui et lui pardonne ses méfaits. Il empile une métaphore sur une autre dans un appel passionné à Dieu. Il demande à Dieu d'être miséricordieux, d'effacer son péché, de le laver soigneusement et de le purger avec de l'hysope, peut-être comme il faut purger un lépreux. Il demande à Dieu de le laver aussi blanc que la neige et de réparer les os que tu as brisés. Il demande à nouveau à Dieu d'effacer ses iniquités. La condition de David a tellement besoin de miséricorde qu'il a besoin d'un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un cœur pur créé en lui 18.12. 28.15. Il demande à Dieu de le restaurer et de le délivrer. 6 sur les autres confessions de péché dans les psaumes, générales et individuelles, voir 32, 5. 38.18. 130, 2, 3. 143, 2. Copyright droit d'auteur, 1990. 2005 par Truth for Today, tout droit réservé. Le pardon du péché, fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Point. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi. Alors ma langue chantera joyeusement ta justice. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres, afin que ma bouche déclare ta louange, V8a, 13 à 15. Puisque David était sincère dans sa pénitence et qu'il confessait son péché à Dieu et implorait son pardon, Dieu lui a pardonné. David a ressenti la joie du salut et a partagé la bonté de Dieu avec les autres. Comme il l'a écrit ailleurs, « Bienheureux est celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a aucune tromperie. » 32, 1, 2. Conclusion. Le processus de pardon pour un enfant de Dieu qui pêche peut être revu dans le psaume 51. Nous devons être convaincus de notre péché, nous repentir, confesser notre péché à Dieu et demander pardon à Dieu. Dieu renouvellera alors notre joie du salut. Péché depuis que le diable a pour la première fois incité Ève à goûter aux fruits défendus, provoquant ainsi le premier pas vers l'apostasie de toute la race humaine, il a continué à utiliser la méthode des petits pas pour creuser un fossé entre l'homme et son Dieu. Nous devons connaître quelque chose de cette méthode si nous voulons résister aux ruses du diable, Éphésiens 6, 10. La méthode des étapes courtes est l'un des procédés les plus trompeurs et les plus dévastateurs employés par Satan. Il met tout en œuvre pour nous amener à faire ce premier petit pas. Une fois le premier pas franchi, le second ne s'annonce pas si mal. Du point de vue de la deuxième étape, la troisième étape n'est pas aussi répugnante en apparence. Et ainsi de suite, un pas après l'autre dans une succession incessante jusqu'à ce qu'un voyage tragiquement long résulte. Un homme ne fait pas une longue et soudaine plongée dans la nuit noire de l'apostasie totale. Si un individu ou un groupe atteint le point, il est impossible de le renouveler jusqu'à la repentance. Cette condition déplorable est le résultat de la méthode à petits pas de Satan. Avant Malone, le diable va loin, mais il fait des pas courts.